À 8h, le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le passage jette nuit à l'heure d'hiver. Un changement pas sans conséquence. Les spécialistes de la sécurité routière estiment qu'il serait à l'origine d'une hausse de 50% des accidents touchant les piétons, mais aussi les cyclistes. Dans l'actualité également, l'annonce en France que le corps de la jeune femme retrouvée dans une forêt du Bas-Rhin est bien celui de Sophie Le Tan. Et un message très important attendu à la mi-journée aux États-Unis, où selon les médias américains, Donald Trump pourrait annoncer la mort d'Al-Baghdadi, le chef de Daesh. À suivre, Édouard Philippe sur le front des Sargasses, le Premier ministre qui a conclu hier soir à la Guadeloupe une conférence internationale sur ce fléau qui touche les Caraïbes depuis 2011. À 8h10, le journal des sports présenté par Clément Comte, avec au sommaire la deuxième demi-finale opposant ce matin le Pays de Galles à l'Afrique du Sud en Coupe du Monde de rugby, après la victoire hier de l'Angleterre sur la Nouvelle-Zélande, sans oublier en football la victoire hier de Lyon sur Metz, battue 2-0. Enfin, à 8h20, la situation dans nos campagnes, en compagnie de votre invité, Éric Delvaux.
Oui, le sociologue Benoît Coquart, les campagnes en déclin, étudiées par ce sociologue. 10 ans d'enquête résumées dans un livre, « Ceux qui restent ». Le livre paraît aux éditions La Découverte.
France Inter.
Pas de doute, il est donc bel et bien 8h, comme vient de vous l'annoncer Éric Delvaux, et non pas à 9h. Je dis cela pour tous ceux qui auraient oublié de retarder d'une heure hier soir leur montre ou leur radio réveil. Nous sommes en effet passés cette nuit en heure d'hiver, ce qui va notamment avoir pour conséquence de faire tomber la nuit un petit peu plus tôt. D'où le cri d'alarme de tous les spécialistes de la sécurité routière, car chaque année, ce raccourcissement du jour entraîne une hausse de 50% des accidents touchant les piétons, mais aussi les cyclistes, entre 17h et 19h. Une tombée de la nuit plus précoce, qui amène certains cyclistes à prendre des précautions, comme a pu le constater Gaël Jolis.
J'ai acheté ça pour ma femme qui est cycliste aussi. Donc c'est un petit dispositif qu'on colle derrière le casque.
Prévention maximale chez vous. Hein.
Ouais, c'est clair.
Les jours raccourcis, c'est Olaf, mais les moyens. À vélo depuis 20 ans, il est très prudent quand il faut pédaler de nuit.
Je mets un blouson qui réfléchit la nuit. Je vais éviter certains axes que je connais mal éclairés. Moi, ça fait déjà un mois et demi que je fais gaffe et que je ne prends pas les mêmes routes.
Des précautions qu'ils sont nombreux à prendre, nous dit Marie. Mécanicien dans ce magasin de vélo.
Oui, en ce moment, on a de plus en plus de monde qui vient nous acheter de l'équipement, autant lumière que casque et gants avec l'arrivée de l'hiver. Et bien être vu, ouais, gilet jaune et lumière et casque.
Dans la rue aussi, les piétons sont sur leur garde.
Je fais beaucoup plus attention, effectivement. C'est plus obscur, donc en fait, les gens font moins attention.
Pour Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention Routière, il faut adapter sa garde-robe.
Parce que quand on a un manteau, par exemple, foncé, on est visible à 25 mètres. Quand on a le même manteau, mais qui va être beige ou qui va être blanc, on sera visible à 40 mètres. Et dès lors qu'on a sur soi des éléments rétro-réfléchissants, on commence à être visible à 150 mètres.
Quant aux voitures, il est conseillé d'allumer ses phares, même en journée, de désembuer ses vitres et de ne pas frôler les trottoirs.
Un changement d'heure qui pourrait prendre fin en 2021. Enfin, j'utilise volontairement le conditionnel, car la plupart des pays européens ne sont toujours pas tombés d'accord sur le choix du maintien de l'heure d'hiver ou bien celle de l'heure d'été. Et tout n'est donc pas encore totalement réglé.
Édouard Philippe est en Guadeloupe pour évoquer, entre autres, le dossier des sargasses, ces algues brunes, fléau du littoral caribéen.
Un dossier pas facile, compte tenu de l'impact négatif de cette algue sur les plages et tout le littoral. Un dossier qui s'est donc inscrit au programme du Premier ministre, un programme chargé, ce qui n'a visiblement pas empêché Édouard Philippe de conserver une certaine décontraction, comme a pu le constater notre envoyé spécial, Laurence Perron.
Un voyage officiel en Outre-mer n'a généralement rien d'une promenade de santé. Le président de la République en a d'ailleurs fait l'expérience rugueuse à La Réunion. Vu les dossiers ici en Guadeloupe, sargasses, chlordécone, eau, colère des personnels de santé, on s'attendait à un Premier ministre tendu. Sur le fond, il est grave.
Ce fléau que constitue l'échouage des sargasses, il faut le regarder en face et il faut essayer de trouver des solutions.
Sur la forme, un Édouard Philippe en cravate et bras de chemise qui décide soudain d'arpenter le front de mer en saluant les enfants. Des selfies avec des gens en maillot de bain.
Très sympa, on est content de l'avoir rencontré.
Une petite bière dans une paillote, il fait 30 degrés. Lui, qui est d'habitude expert en la matière, n'esquive pas l'interpellation de ce couple de retraités.
Pour moi, le minimum retraite, ça devrait être de 1500 euros. Que vous ayez touché 1 million d'euros ou que vous ayez touché le SMIC, il n'y aurait pas de problème de caisse de retraite à l'heure actuelle. n'y aurait pas de problème.
Et ce serait équitable pour tout le monde.
Pas d'esquive, pas de réponse non plus. Le dossier des retraites, même pour un Premier ministre qui marche sur l'eau, ça peut vite se transformer en sable mouvant. À Pointe-à-Pitre, Laurence Perron, France Inter.
Édouard Philippe qui a donc conclu hier la première conférence internationale sur les sargasses, préférant s'en remettre au financement de projets scientifiques plutôt que de décréter un état d'urgence.
L'état de Californie se prépare au pire pour les prochaines heures.
Oui, aux incendies qui font rage dans la région depuis quelques jours vont s'ajouter des vents extrêmement violents. Par sécurité, les autorités ont demandé à 90 000 personnes d'évacuer, notamment aux habitants d'Hillsburg, une commune située au cœur de la région viticole. Une correspondance de Loïc Piala.
Hillsburg est une petite ville appréciée des touristes au cœur de la région des vins. Samedi à 16h heure locale, ses 11 000 habitants avaient déserté les lieux. Ceux de Windsor, quelques kilomètres au sud, ont fait la même chose, suivant l'ordre d'évacuation tombé dans la matinée. Ne prenez pas cet avertissement à la légère, le danger est réel, a prévenu le maire. Tous devaient quitter leur domicile avant la coupure de courant généralisée annoncée par la compagnie Pacific Gas and Electric. Avant surtout que ne se réveillent les Diablo Winds, ces vents chauds et secs du nord de la Californie. Les météorologues s'attendent à ce que les rafales dépassent les 100 km par heure pendant la nuit. Un épisode venteux potentiellement historique selon eux. Des conditions pareilles rendraient incontrôlables les flammes du Kincaid Fire toutes proches. D'où ces évacuations d'une ampleur rarement, si ce n'est jamais vue dans la région. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et puis cette information émanant donc de la Maison Blanche. La Maison Blanche qui annonce que le président Donald Trump fera une annonce très importante à 14h pour nous, heure française. Annonce qui, selon les médias américains, concernerait une opération militaire en Syrie. Et toujours selon nos confrères américains, Donald Trump pourrait même annoncer la mort du chef djihadiste de l'organisation État islamique, Aboubakar al-Baghdadi.
La situation écologique en Amazonie a été au cœur d'un synode qui vient de se tenir à Rome. L'écologie donc, mais pas seulement, Serge.
La situation environnementale en effet, mais aussi la situation de l'Église dans la région. Réunis pour ce synode, des évêques appellent en effet le pape François à ouvrir la prêtrise en Amazonie aux hommes mariés, déjà diacres, et à étudier l'ouverture du diaconat aux femmes compte tenu du manque d'effectifs catholiques en Amazonie. Le souverain pontife qui devrait se prononcer sur ce dossier d'ici la fin de l'année. Rome, Bruce de Galzin.
Il faudra tout de même une solide formation de diacres permanents avant d'être ordonné prêtre. Mais si le pape valide, désormais un homme marié avec une famille pourra célébrer la messe et administrer les sacrements. L'Amazonie en a besoin, car il n'y a plus de prêtres, mais le synode demande aussi que cette réflexion soit portée de manière universelle, et donc pour d'autres régions du monde. L'ordination d'hommes mariés a été le paragraphe le plus débattu et le moins bien voté, mais il a obtenu plus des deux tiers des voix nécessaires et a donc été validé. Plus timide, en revanche, sur le rôle des femmes, le synode demande un ministère spécifique pour les femmes leaders de leur communauté en Amazonie, c'est une avancée, mais elles n'auront pas encore droit au diaconat permanent. Une commission sera relancée pour y réfléchir. Deux ouvertures tout de même qui ne manqueront pas d'affoler les milieux les plus conservateurs. Mais le pape a déjà pris les devants en dénonçant ces élites catholiques qui ne retiendront que des petites choses et pas les grandes. Lapidaire, François a cité Charles Péguy, parce qu'ils n'aiment personne, ils croient qu'ils aiment Dieu. À Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Retour en France où le procureur de Strasbourg a annoncé hier soir que le corps de la jeune femme retrouvée cette semaine dans une forêt du Bas-Rhin était bien celui de Sophie Le Tan. Cette étudiante portée disparue l'an dernier, le jour de ses 20 ans, alors qu'elle était partie visiter un appartement dans la région de Strasbourg. Annonce basée sur le résultat des analyses ADN. Nous allons refermer ce journal par une découverte qui risque de faire parler d'elle, celle d'un tableau attribué au peintre italien Léonard de Vinci. Ce tableau, représentant semble-t-il Machiavel, aurait été fait dans l'Indre, cette découverte dans l'Indre, au château de Valençay, ancienne propriété du prince de Talleyrand, Marius Delaunay.
Tout commence l'année dernière, lorsque les équipes du château retrouvent une note datant du 19e siècle, plus précisément de 1874. Le régisseur de l'époque affirmait alors que le château de Valençay contenait une toile de Léonard de Vinci, une toile de 55 cm de hauteur, 42 cm de largeur, que les archivistes se mettent alors à chercher. Ils retrouvent finalement la fameuse toile avec les mêmes dimensions, un tableau sur fond noir qui représente Machiavel, selon les notes du régisseur. La toile était rangée depuis bien longtemps dans les archives et bien conservée. Elle a visiblement déjà bénéficié d'une première restauration. Reste maintenant à vérifier s'il s'agit bien d'une peinture de Léonard de Vinci. La découverte prendrait alors une valeur inestimable. Il n'y a qu'une vingtaine de toiles dans le monde qui sont pour l'instant attribués au peintre de la Renaissance.
Et à noter que l'exposition Léonard de Vinci au Louvre, cette fois-ci à Paris, donc enregistre des taux de réservation spectaculaires. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Éric Delvaux.